France Inter.
Voici l'interview au bistrot, Bistroscopie, avec vous, ma chère Charline Vanhoenacker.
Merci Eric Delvaux pour ces informations. Eh bien, qui vient prendre l'apéro ce soir? Figurez-vous, un grand adolescent de 80 ans. J'ai rendez-vous avec Daniel Cohn-Bendit.
Bonne émission avec Dany.
Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour madame. Comment allez-vous?
Bien et vous? Oh, j'ai droit à un baise-main. C'est trop classe.
Hein, c'est trop classe. Je suis classe.
Tellement classe. Vous êtes arrivé avant moi.
Ben oui, moi je suis allemand. Je suis à l'heure. Alors que les Belges, c'est pas tout à fait ça.
Hein? Alors ça?
Ah bah
je
oui.
Je peux pas vous laisser dire ça.
Ah bah,
première
écoutez,
fake news. On commence sur une fake news. Bravo.
Écoutez, j'ai passé assez de temps à Bruxelles pour le savoir.
Allons-y alors.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Daniel Cohn-Bendit, je vous comprends beaucoup mieux depuis que je vous ai lu. Parce que parfois, il est arrivé que vous m'ayez perdu. Entre Dany le Rouge, Dany le Vert, vous avez eu aussi votre période bleue. Quand on retrace votre parcours, déjà même avant votre naissance, tout m'apparaît cohérent. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec nos auditrices aujourd'hui. Vous avez publié au printemps dernier « Souvenir d'un apatride » avec la journaliste Marion Van Rentergem. Aux éditions Mia les Barreaux, c'est un livre intime où vous racontez votre histoire d'enfant apatride, puis orphelin, juif allemand franco-européen, et l'histoire de vos parents, votre parcours politique, 68, adjoint au maire de Francfort, député européen pendant 20 ans, et dont je me suis d'abord posé comme question, qui donc pour votre biopic?
Pour me jouer, Luchini.
Ah ouais. C'est l'image. Mais ouais.
Et puis surtout qu'on a la même voix.
Oui.
On nous
ça
confond.
Va être fatigant, hein, je vous le dis.
Oui,
ça
oui, d'accord.
Fatigant, mais...
Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Ah ouais, Luchini. Et le réalisateur?
Moi-même.
Ah ouais, donc un biopic, pas de distance, quoi.
Non,
ça...
pas de distance.
Ah,
non,
pas de distance, non.
Non.
Ah ouais.
Avec Luchini, ça serait déjà une telle distance qu'il faut revenir à moi un peu de temps en temps.
Ah, j'ai l'image. J'ai l'image du ta gueule à Martin Schulz. Tout me revient en tête. Marion Van Rentergem prend de la distance un petit peu avec vous, mais elle vous connaît bien. Et elle écrit dans ce livre « Quand je suis inquiète de la tournure du monde, j'appelle Dany, il a toujours une idée, les difficultés le stimulent. » Donc là, je compte sur vous, hein, parce qu'on
a besoin de vous. Oui, oui, là, parce que ça va mal en ce moment.
Ça va mal. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour éviter la trumpisation de la France?
Eh bien, on dit qu'on n'en veut pas, et on fait... Et on agit pour qu'on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre tous ceux qui admirent les Bolloré de ce monde, qui admirent le trumpisme. Il faut leur dire non, allez vous faire foutre, on ne veut pas de ça. Et
on peut dire allez vous faire foutre.
Il faut dire allez vous faire foutre. Et donc je crois que le grand problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui inquiets se cachent et n'ose pas lever la tête contre le trumpisme en France ou dans d'autres pays. Et ça, c'est un problème parce que le trumpisme à la Trump, Marine Le Pen, AfD, Vlaams Blok, dans un pays que vous connaissez, c'est simpliste et c'est clair. Les émigrés, il y en a trop. C'est la cause de notre mal. Alors là, vous pouvez leur demander « Il fait beau ?» Non, parce qu'il y a trop d'émigrés. Et vous leur demandez « Mais la circulation ?» Oui, il y a trop de circulation parce qu'il y a trop d'émigrés. Et donc, eux, ils ont un discours qui frappe, qui touche. Alors là, la question, c'est pourquoi ça touche positivement tellement de monde. Et nous, il faut expliquer.
Mais face à ce discours simpliste, c'est pas facile de réagir. On n'a pas la parade encore, j'ai l'impression, moi.
Non, parce que d'abord, on n'ose pas dire c'est simpliste. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il faut se battre pour la simplicité de la rationalité. La rationalité aussi, c'est simple. Je vous donne un exemple parlant d'aujourd'hui. Macron va reconnaître l'État palestinien à l'ONU. Tout le monde la casse la tête, il faut mettre des conditions. Pourtant, c'est simple. C'est très simple. Alors, tout le monde dit qu'il faut poser des conditions. Mais attendez, on a reconnu la Chine, on lui pose des conditions, il faut être gentil, il faut être démocrate. Alors, on enlève la Chine. Que l'État palestinien rentre dans un cadre international du droit, et après, on négociera s'il n'accepte pas ce droit international. Donc, vous voyez que... Il faut avoir le courage de la simplicité de la rationalité.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Alors, pour comprendre, il faut revenir le 4 avril 1945. La première fois que Daniel Cohn-Bendit a ouvert les yeux, il n'était ni français, ni allemand et à peine juif. Ses parents n'avaient plus de passeport. Vos parents juifs allemands viennent de se cacher en France.
Ils sont venus en France en 1933.
Voilà, en 1933. Et c'est l'an dernier, en lisant un livre sur Hannah Arendt, donc c'est très frais, que vous découvrez comment vivaient vos parents cachés en France.
Je savais beaucoup de choses, mais dans un livre de Marina Trouillès qui s'appelle « La tribu », qui raconte Hannah Arendt et ses amis en France, dont mon père et ma mère, eh bien, c'est la première fois que j'ai découvert le périple horrible de mon frère dans des camps d'internement.
De votre père, vous allez dire votre frère.
J'ai dit mon frère,
oui,
parce que mon frère à 9 ans, il était un peu mon père après, mon père, qui vivait en France, donc c'est cette patrie des droits de l'homme et de la liberté. Quand les Allemands sont rentrés en France, après être passés en Belgique...
Leur a dit c'est par là la France,
c'est
ça. Je me rappelle très bien.
Exactement, et on peut vous aider même, il y en a qui ont dit,
certains
on
ont
va
dit
vous
oui.
aider.
Hein.
Eh bien, ils ont arrêté tous les hommes entre 17 et 60 ans, et ressortissants étrangers venant des pays qui étaient en guerre contre la France. Mmh. Parce qu'ils se sont dit, les juifs allemands, réfugiés politiques en même temps, ils sont génétiquement allemands, donc ils risquent de se battre avec la Wehrmacht. Il fallait le faire, il fallait penser comme ça, comme c'est la grande logique cartésienne française. Et donc mon père a fait des camps d'internement, et il est le dernier, il était près de Brest, il a traversé la France à pied pour rejoindre ma mère qui était à Montauban. Et mon frère.
Allô, Fred.
Ah là là, Siegmund, aide-moi, Siegmund, je suis innocent.
Hannah Arendt, qui pose les premiers jalons de l'idée européenne, c'est comme si vous étiez programmé pour défendre et incarner cette Union européenne, Danny Cohn-Bendit, finalement.
Je ne sais pas si je suis programmé, mais peut-être d'ailleurs. En fait, j'ai une identité prénatale. J'ai été conçu la semaine d'après le débarquement en Normandie. Et alors, comme tous les auditrices et les auditeurs sont adultes, ils savent que ça dure 9 mois, et que 9 mois plus tard, donc début avril, je suis né. Et donc, je suis un enfant de la liberté. Et je crois que ça m'a marqué. Ça m'a marqué que même quand ça va mal, quand tout est terrible, que je pense à Trump, Israël, Gaza, l'horreur partout et tout ça, et que rien n'est possible, tout est c'est fini, eh bien, je me dis, oui, mais. Et je crois que cette réconciliation franco-allemande, qui est, si on veut, dans les gènes des problèmes de ma naissance, eh bien, me donne la force toujours de dire, quand ça va mal, pense toujours que même dans les situations les plus horribles, on peut s'en sortir positivement.
Et c'est seulement depuis quelques années que vous commencez à vous interroger sur votre identité juive. Je me suis dit, mais comment est-ce possible
que parce que je veux résoudre une contradiction impossible. Je crois qu'il y a des Ashkenazes heureux. Parce que les Ashkenazes, ils sont toujours malheureux. Non, c'est vrai, c'est un Ashkenaz, il vous dira comment ça va, il vous dira jamais.
Comme un socialiste.
Comme un socialiste. Ah, très bon. Ah, là, celle-là, je l'achète.
Ah, je vous la donne.
D'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, je veux dire, moi, j'ai mis du temps à réfléchir qu'est-ce que c'est que mon identité juive. Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, c'est ma femme, qui est une goye allemande, qui m'a dit, mais alors je dis, mais non, c'est pas un problème pour moi. Elle me dit, non, ça c'est trop facile. Tu peux pas dire, c'est pas un problème. À chaque fois que tu vois au cinéma un nazi, n'importe quel navet, je pleure. J'ai les larmes aux yeux. Donc je dis, tu peux pas dire que c'est pas un problème.
Et d'ailleurs, même devant la grande vadrouille.
Mais c'est pas un film allemand. Donc, ça c'est un peu l'humour français, des fois. Bon. Mais alors, à la fin, donc, je me suis demandé pourquoi, comment. Et donc, je suis marié à une goye. Mon fils n'est pas juif. Je ne suis pas circoncis. Je ne vais jamais à la synagogue. Aujourd'hui, là, quand on enregistre, c'est nouvelle année. Shana Tova, bonne année. mais ça ne me concerne pas. Hein, je veux dire, bon. Ouais. Et pourtant, c'est ce que j'explique dans ce livre, je ne peux pas m'extraire de l'histoire de ce peuple persécuté, parce que ça aurait pu être moi. Et donc ça, c'est une partie de mon identité. Mais là où je flippe et je flanche complètement, le 7 octobre, on était seuls. Les Juifs, tout le monde nous disait « Ouais, c'est horrible, mais... » Il y avait cet horrible « mais ». Ouais, mais vous l'avez un peu cherché hein, en Israël. Vous avez cherché. Hein. Donc, c'était horrible, cette idée d'un pogrom, de ce qui s'était passé. Ils n'ont pas vu que ce massacre, cette volonté d'extermination du 7 octobre, ça allait au-delà de la résistance. Et puis, maintenant, il y a Gaza, l'horreur, le massacre. Alors, vous pouvez me demander, alors, c'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité, c'est une boucherie? Oui, c'est une boucherie. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité ou un génocide? Le tribunal international pénal va le décider. C'est horrible, c'est inadmissible. Donc, on doit être en même temps lucide de l'histoire et en même temps, on n'a pas le droit d'être aveugle. On ne peut pas se taire après ce qui se passe, après 2 ans presque à Gaza. On ne peut pas se taire. Et pour moi, et c'est là où ça devient ingérable, j'espérais que l'on puisse apprendre de l'histoire. J'espérais que l'éthique juive, après ce qu'ont vécu les Juifs, ils ne feraient pas la même chose que beaucoup de peuples ont fait à d'autres. Et il faut dire que l'État d'Israël, ce gouvernement, fait exactement ce que beaucoup d'États impérialistes ont fait dans leur histoire.
Et ça, c'est une blessure pour vous de voir
c'est
ça.
Une blessure parce que je suis juif de la diaspora et pour les juifs de la diaspora, ça devient de plus en plus difficile de s'identifier à Israël. Mais...
Je vois votre œil qui s'illumine.
Encore 11 mois.
Ouais.
Vous savez pourquoi? Dans 11 mois, il y a de nouvelles élections en Israël. Inch'Allah, Netanyahou va être battu. Les Palestiniens en prennent plein la gueule et c'est terrible. Mmh. Aujourd'hui, je veux dire, pour eux, on
d'attend. C'est encore long. Hein,
c'est très long. Non, ça, je... Mais d'un autre côté, dans la société israélienne, je crois plus en une révolte. Ça sera un gouvernement de centre-droit, mais la gauche sera dedans. Ça sera un gouvernement qui les sortira de l'horreur de Netanyahou. J'y crois plus que les mid-termes aux États-Unis.
Tant qu'il y a de l'antisémitisme, je suis juif, dites-vous aussi, dans cette pas quête d'identité, mais définition de votre identité. Donc c'est une fois de plus le rapport à l'oppression qui parvient à vous définir ?
Qui me définit aussi. Vous savez, Hannah Arendt dit « On ne sera en sécurité face à l'antisémitisme que sur la Lune ». Manque de peau. Depuis Elon Musk, même sur la Lune, on n'est plus en sécurité.
Et bientôt sur Mars, c'est vous dire.
Ouais, donc
ça va pas s'arranger.
On est mal barré. Ouais. On est mal barré.
Daniel Cohn-Bendit, dans la même logique, est-ce que tant qu'il y a des inégalités, je suis de gauche ?
Tant qu'il y a des inégalités, je suis pour lutter contre les inégalités. Mais pas n'importe comment. Parce que, je veux dire...
Ouais, c'est-à-dire la taxe Zucman, est-ce que c'est n'importe comment ou pas ?
C'est une possibilité, mais je dis, aujourd'hui, oui, il faut une contribution de solidarité. Il faut s'attaquer aux inégalités de l'héritage. Mais je suis aussi, et c'est ce qui a outré la gauche bien-pensante, pour l'économie de marché. Je suis pour une économie où la concurrence est une dynamique, mais elle doit être régulée. Je suis pour une économie de marché socialement régulée.
Je reconnais mon Dany centriste, là.
Mais oui.
Ah ben oui.
Mais,
mais pas un centrisme mou, hein.
Non.
Vous êtes un centrisme dynamique.
Mais centriste dans le sens que, franchement, les pays de l'Est, ça n'a pas marché. On peut le dire, les communistes.
Je dirais pas que c'était un échec. Je dirais que ça n'a pas marché.
D'accord. C'était pas un échec, mais c'était horrible pour ceux qui y vivaient. Donc voilà. Mais oui, je suis pour qu'on aide ceux qui en ont le moins. Mais il ne faut pas dire que tout le monde en a le moins. Prenons la discussion qui, aujourd'hui, est extraordinaire en France, c'est les retraites.
Hein ?
Les retraites. Alors ouais, il faut revenir à 60 ans. Et pourquoi pas 55 ? Pourquoi travailler jusqu'à 60 ans ?
Ben 55, c'est mieux, si on peut s'arrêter à 55.
Mais pourquoi pas 40 ?
Oh ben, ce sera encore plus chouette.
Et alors, pourquoi pas 35 ? Pourquoi commencer à travailler ?
C'est vrai, ça, dans le fond, enfin, ben voilà.
Un vive, ben, voilà.
Je reconnais mon anard, mon libertaire.
Voilà,
mon...
voilà.
Mais vous êtes toujours au boulot à 80 ans, alors évidemment, que vous êtes en forme,
mais
vous.
Mais moi, je peux, il y en a d'autres qui peuvent pas.
Bah oui, souvent les gens, ils sont à la retraite, bim, ils tombent malades le lendemain, et puis après, ils n'ont pas le temps
une
de profiter de la retraite.
Une partie de la société. Moi, bah, je suis...
Celle qui est la plus...
Moi, je suis
qui est la moins
retraite.
Qui est la plus démunie.
Eh ben, on fait... Justement, on ne fait pas l'égalité pour tous là-dessus. On dit qu'il y a une pénibilité du travail qui, après, et ça on peut le mesurer, les catégories sociales, on les connaît, qui vous donne moins d'espérance de vie.
Mais comment est-ce qu'on calcule votre espérance de vie ?
Enfin, avec
tout
l'intelligence
arriver,
artificielle, c'est très facile.
Ah bah voilà autre chose.
C'est très facile. Non mais, vous avez aujourd'hui des statistiques... qui sont d'une logique...
On va confier notre retraite à l'IA, Daniel Cohn-Bendit.
Mais là, aujourd'hui, on sait ce qu'on fait. On calcule en fonction...
Déjà, c'est McKinsey, d'abord, et après, c'est l'IA.
Ouais, après. Et d'ailleurs, on le dit dans les débats, la CFDT le dit. Oui, mais lié à la pénibilité, à la dureté de la vie, il y a des catégories sociales qui ont une espérance de vie moindre. Et ben voilà. Et deuxièmement, moi, je suis pour sortir en sifflet. Il y a des gens qui veulent partir plus tôt. Pourquoi on ne pense pas comme ça ? Tout cela aurait été possible avec la réforme à points. Ce que j'en veux à Macron, c'est que la réforme à points, qui était une idée de gauche, une idée de la CFDT, une idée des écologistes à l'époque, pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout de sa réforme à points et qu'il s'est laissé avoir avec son âge pivot complètement...
Et là, il vous a perdu et fin de votre période bleue.
Et il m'a perdu.
Le bleu, c'était fini.
Il m'a perdu.
Oh, vous m'avez ambiancé avec cette affaire de retraite.
Hein ?
C'est l'occasion de passer un disque choisi par Djoubaka qui s'appelle justement Nuba Galactica. Allez, on part en bamboche avec Dany, on se retrouve juste après.
Efface tout. Thank you.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée avec Daniel Cohn-Bendit, qui publie Souvenirs d'un apatride avec Marion Van Runtergem. C'est aux éditions Miel et Barreau, où j'apprends que, adolescent, vous restez très peu de temps à Paris, vous êtes scolarisé en Allemagne. Là, votre hantise, c'est que certains de vos profs soient d'anciens nazis. Est-ce que c'est ça, l'Allemagne, à l'époque, quand on est enfant et ado, c'est de grandir avec ce soupçon permanent qu'on a un ancien nazi en face à soi qui, éventuellement, vous donne cours ?
C'est un soupçon, pas pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas la même sensibilité. Mais c'est un vrai soupçon. Et d'ailleurs, un des moteurs de la révolte de 68 en Allemagne, ça a été les enfants ou les petits-enfants nés après 45 qui demandaient à leurs parents ou à leurs grands-parents « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous saviez ?» Le choc de l'Allemagne, ça a été, dans les années 80, la série Holocauste. C'était une série, ça passait une fois par semaine. Et ils devaient faire des discussions après, parce que dans les familles, mais ça chauffait, les grands-parents tout d'un coup étaient interpellés. « Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu savais rien. Mais c'est pas possible que tu te regardes dans le film. Tout le monde avait vu. » Et donc, un des moteurs pour l'Allemagne de 68, c'est justement de dire « On veut savoir la responsabilité des parents et des grands-parents pour Hitler. »
Et quand vous rencontrez votre épouse, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, Barbara Koster.
Non, c'est pas mon épouse, c'est une femme avant.
Ah, c'était une femme avant.
Nous avons plusieurs vies. Nous sommes. C'est vrai. Je crois que c'est pas que les hommes, hein. Non, hein. Je sais pas.
C'est pas Barbara qui à un moment.
C'est Barbara.
A des parents.
Si elle a des parents nazis.
Oui, voilà. Oui, donc c'est pas l'actuelle, c'est la précédente. Ouais. Oui, parce après, on va expliquer. Vous vivez en communauté, etc.
En communauté.
On va y revenir, hein, Dani, parce que vous êtes un coquinou quand même. Hein. Alors, donc, cette Barbara, ses parents ont été nazis. Et elle prend un malin plaisir à vous les faire rencontrer.
Oui, elle voulait absolument que je vienne chez elle pour obliger son père à serrer la main d'un juif. Pour elle, c'était d'apprendre. Son père était dans la Wehrmacht, monté casino en Italie avec l'armée allemande en Italie, les massacres et tout ça. Et il y a beaucoup de familles comme ça, il y a beaucoup d'enfants qui ont découvert ce que faisaient leurs parents. Bref... Et c'est peut-être un des problèmes de la France. De Gaulle a voulu pacifier la France en disant « 45, on n'est plus collaborateurs, on est tous français ». Et le débat sur la responsabilité de la collaboration a été très dur. Et ça, en Allemagne, l'Allemagne a été très loin dans cette remise en cause historique.
Et aujourd'hui, il y a des enfants qui se rendent compte que leurs parents ont fait 68. C'est des choses qui arrivent. S'il y avait eu des réseaux sociaux en mai 68, il y aurait eu un hashtag « Je suis Dani ». Il aurait fait des réquis. Les centristes ?
Ah ben, le mouvement du 22 mars, ouais. Et je me suis battu, fédérait des centristes jusqu'à l'extrême gauche. Ça a été ça, son originalité. Alors vous aviez les groupes d'extrême gauche, dont beaucoup de mes libertaires, qui voulaient radicaliser. Et moi, je dis non, il faut laisser ouvert.
Et c'est quoi être centriste en mai 68 alors ?
Il ne rêvait pas du socialisme, de ceci. Il disait, on est contre cette société qui nous oppresse sans avoir un mythe du socialisme, de l'anarchisme et tout ça en tête. Et puis il était...
C'était lancer les pavés, mais après vous les recimentez, comment ça marche ? Ne brisez pas les vitres, lavez-les.
Non, il disait ni ne lancer, ne pas lancer. Il disait c'est comme ça. Mais dans leur modèle de société, l'idée qu'ils voulaient, ils étaient plus démocrates sans se projeter dans un socialisme que beaucoup découvriront d'introuvable.
Et donc, le 21 mai 68, vous êtes expulsé de France par De Gaulle.
C'est les flics qui arrivent.
Chercher. Je sais pas, ils nous écoutent, ils se sont dit ces deux-là, il faut vraiment les séparer tout de suite. Parce que... expulsé de France par De Gaulle, vous êtes soutenu avec le slogan « Nous sommes tous des juifs allemands ». Aujourd'hui, vous recevriez le même soutien, vous pensez ?
Ouh, bonne question. Là, est-ce que je recevrais le... Écoutez, oui, je crois qu'aujourd'hui, Alors, c'est pas tout le monde, mais on pourrait, avec l'idée... simple. Être juif aujourd'hui, allemand, de gauche, humaniste, c'est vouloir manifester dans la rue avec deux drapeaux. Un drapeau palestinien et un drapeau israélien. Et les pro-palestiniens devraient penser la même chose. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y aura pas de paix pour les Palestiniens. S'il n'y a pas de Palestine, il n'y aura pas de paix pour les Israéliens. C'est simple.
Mais votre solution, vous l'écrivez dans le livre, c'est qui est pro-palestinien doit être pro-israélien, qui est pro-israélien doit être pro-palestinien.
Exact.
Voilà. Bah oui, c'est vous qui l'avez dit, donc c'est bon.
Oui, mais non seulement, mais c'est à chaque fois que quelqu'un me le répète en citant, je dis,
donc c'est
punaise,
pas mal ce que je viens de dire.
C'est pas mal, ça, c'est vraiment bien pensé.
Dany, vous êtes un génie.
Ouais, absolument.
Et toujours ce 21 mai 68, expulsion de France, un psy rédige un témoignage de moralité qui parle de crise d'adolescence prolongée. Moi, je me demande, est-ce que j'ai devant moi un ado de 80 ans ?
Ou
est-ce que ça
pas.
S'est fini à un moment ?
Oui, c'est fini à un moment. Ouais. C'est fini à un moment parce que ça s'est prolongé dans ces histoires provocatrices très connes sur la pédophilie, etc.
Vous expliquez tout ça dans
oui,
le livre,
hein,
pour
absolument.
Ceux qui veulent s'en renseigner.
Je veux dire par là qu'à un moment, dans la tête, on se calme. On se calme dans le sens que, voilà, on a plus le sens des réalités. Mais c'est vrai qu'en même temps, certaines interventions de ma part provoquent les bien-pensants. Par exemple, quand j'arrive à France Inter un matin, à la matinale...
Non, de la bien-pensance, ça aussi,
non, non seulement ça, je leur ai dit, j'aime bien chez vous parce que vous êtes le dernier salon du socialisme bien-pensant. Oh la vache! Ils m'ont téléphoné, Dany, tu peux pas dire ça. Tu peux
drôle.
Pas dire ça. On a invité un type de droite il y a deux jours, on avait...
Ça les a fait flipper, ça.
Ça les a fait flipper, alors que je voulais être gentil. Je voulais être gentil. Je voulais leur dire, je vous aime bien. Alors, bon, enfin, c'est la vie. Hein.
C'est bien que vous disiez ça en ce moment, parce qu'on en avait bien besoin, tiens, de remettre une petite couche là-dessus.
Non. Moi, je suis d'accord avec l'interview d'Ernotte.
Oui.
Il faut nommer un chien un chien.
Ouais.
Et que
CNews est d'extrême droite.
Et que l'extrême droite et que le système CNews, Bolloré, le journal du dimanche, tout ça, c'est dangereux. Mm-hmm. C'est dangereux, c'est pas, oh là là, c'est la compétition démocratique. Non, il y a un pouvoir de l'argent qui est aujourd'hui au service d'un projet politique. Et il faut que, non seulement le service public, il faut que les démocrates, les libéraux, les socialistes, les gens qui pensent un peu, eh ben ils se défendent, non pas à reculons, mais en disant, on ne reculera pas. La bêtise ne passera pas.
Ouais. Faut gueuler un peu plus. On gueule pas.
Absolument.
En bon démocrate de salon, on gueule pas.
Voilà. Et surtout, on a mauvaise conscience.
Ah bon ?
Ben, y en a beaucoup qui ont mauvaise conscience. Ouais, je suis pas pauvre, alors je peux pas dire certaines choses. Mais je veux dire, on est un pays quand même bizarre.
Oui, ça je vous confirme.
Non, par exemple, il y a une manifestation sociale. Mm-hmm. On me dit il y a 500-600 000 personnes. L'autre, il y a 1 million, 1 million 2. À Marseille, il y a des manifestants. Alors la police dit 15-18 000 et la CGT dit 125 000. Non mais c'est fou. Non,
moi, ça manque d'une IA, vous ne trouvez pas ?
Non, ça manque de liens. Alors, comme les médias sont trouillards, ils disent les uns et les autres. Pourquoi ils ne disent pas ? Ben, y en a un qui dit des conneries. C'est pas possible que les deux soient vêtus. Tu peux pas dire.
Bah, ils citent du factuel.
Non,
ils prennent
pas
de la
factuel.
Distance.
Non. Oui, bah,
les
justement.
Les chiffres émanent de cette source, d'autres chiffres
ouais,
émanent de cette source.
Il y a trois journalistes sur place. Il suffit de se mettre sur une poubelle avant qu'elle brûle, avant qu'elle brûle, et on voit le nombre de gens.
On se met sur la poubelle.
Non, t'as
compte.
Pas besoin. Si t'as suivi des manifs.
Venez, on va faire ça ensemble la prochaine fois. Manif, on monte sur une poubelle à deux et on compte les
c'est
gens.
C'est très facile. Non, on les compte pas. On voit à peu près l'étendue. Mais je sais que.
Vous fonctionnez à l'instinct, Dany.
Moi, je vais vous dire. Pourquoi je sais.
Entre l'instinct et l'IA, vous, je suis perdu.
Je sais comment ça se passe.
Ouais.
La grande manif. Le 13 mai.
Ouais.
Je suis devant la manif, il y a eu des problèmes.
Attendez, le 13 mai, c'est quelle manif ? Parce qu'il y en a tellement.
68.
Ah oui, ok, d'accord.
Alors, non, vous n'étiez pas né.
Ouais, non.
Alors, voilà. C'est pour ça que je peux vous raconter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire non.
Allez-y.
Ça, c'est simple, ça. Bon. Et donc, les journalistes arrivent. Je suis en première ligne. On a eu du mal à arriver. Il y avait du monde partout. Et on me demande, il y a combien de personnes ? Franchement.
Elles sont dans votre dos, là, donc.
J'en n'en sais rien. Je dis 1 million. Et depuis, on dit 1 million. Non, mais c'est complètement idiot.
Ben oui, vous lancez des
fake
news.
C'est complètement idiot de me demander devant, il y a combien de personnes ? Non ?
Ça, je suis d'accord.
Voilà,
ça,
voilà d'accord. Vous voyez, même oui, pas né, vous êtes d'accord.
Avec tout, mais non, mais avec tout le respect que j'ai pour la profession de journaliste, ça, c'est une question à la con.
Voilà.
Attendez, je vais relire mes questions avant de vous les poser, parce que là, j'ai l'impression que j'ai un stress.
France Inter. Bistroscopie. Charline Vanhoenacker.
Moi, je voudrais qu'on revienne un moment sur cette vie en communauté.
Ce
milieu alternatif.
Ah là là. Oh là là. Je vois les yeux brillants,
oui,
là. Il y a quelque chose.
Votre
là.
Côté coquinou m'intrigue. Voilà. C'est quoi la vie en communauté à Francfort dans les années 70 ? Parce que vous dites, même quand on se sépare, c'est alternatif.
Alors, je vous explique.
Ouais.
C'est simple. Chacun a sa chambre et on fait la cuisine ensemble, le ménage ensemble, on se partage les tâches, etc. Et on se parle de la vie, on se soutient, etc.
Je vous imagine en train de faire la vaisselle.
Absolument.
Avec des gants Mappa.
Absolument. Et là, quand on se sépare, la question, c'est... En fait, ce qui s'est passé, je suis tombé amoureux d'une femme, qui est ma femme d'aujourd'hui, ça fait 45 ans qu'on est ensemble, qui était mariée et qui avait un fils de 2 ans. Et ça a été rapide. Et donc, elle a quitté son mari. On a vécu ensemble. Et son mari, elle vivait en communauté. Ben, au début, comme le père, pour lui, le plus important, c'est garder sa relation avec son fils. Mm-hmm. Donc, il a dit, bon, ben, il y a une séparation. Ça a été difficile. Et moi, pendant des années, je trouvais ça très drôle d'être avec une femme qui était mariée. Je trouvais ça... Un peu scotchy, un peu bien, quoi. Hein, et donc, je dormais chez eux, et lui m'acceptait, puis lui, il est tombé amoureux d'une autre femme, il a eu un autre gars, et maintenant, on a une famille recomposée. Mm-hmm. Et donc, quand on se sépare, on reste quand même dans une famille recomposée pour les enfants. Et ça fonctionne.
Et vous adorez vivre en communauté, donc dans
et
la communauté européenne.
La voilà. Elle est bonne, celle-là, elle est bonne.
Oui. Une dernière question, Daniel Cohn-Bendit. Votre mantra, c'est l'imagination au pouvoir. Est-ce que, dans la jeune génération qui se bouge énormément, qui est activiste, qui milite, qui réfléchit, qui fait bouger les choses aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez cette imagination au pouvoir ? Et quel message vous leur adressez ?
Alors, d'abord, je ne suis pas Baden-Powell en culotte courte à 80 ans, qui est toujours présent et qui parle aux jeunes. Hein ? Donc... Par exemple, il y a une des égéries et des responsables du mouvement contre le climat en Allemagne, qui s'appelle Luisa Neubauer, qui a 25 ans, qui est une femme extraordinaire. Je trouve qu'elle va être une des personnalités politiques des 20 prochaines années en Allemagne. Mm-hmm. Donc, il y a des tas de jeunes, il y en a qui ont des idées, qui...
Mm-hmm. Et qui agissent au niveau européen.
Qui agissent au niveau européen, il y a des fédéralistes européens, enfin... Mon message, il est simple, il est de dire, oui, il y a des tas de raisons de se révolter, mais ça ne veut pas dire, et c'est peut-être différent d'il y a 50 ans, ça ne veut pas dire qu'en même temps, il ne faut pas penser. Parce que dans les révoltes du passé, il y a eu tellement de bêtises, il y a eu tellement de faux espoirs, qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de recommencer toujours à zéro. C'est-à-dire, vous pouvez être pro-palestinien ou palestinienne, mais si vous ne dites pas un mot sur le terrorisme et le Hamas, eh bien vous devenez illégitime. Non pas parce que vous êtes pro-palestinienne, mais parce que vous ne dites rien sur l'horreur du terrorisme. Vous pouvez être pro-israélienne ou israélien et dire oui, les juifs ont besoin. Mais si vous ne dites rien sur un gouvernement néo-fasciste comme en Israël, ben vous n'êtes pas juste. Vous n'avez pas le droit d'être borgne. C'est ça le message. Il faut avoir les deux yeux ouverts.
Vous n'avez pas le droit d'être borgne. Jean-Marie Le Pen disait ça aussi, mais...
C'est bien ça. Mais lui, il était aveugle. C'est ça
mais
le problème.
C'est ça, exactement. On va vraiment finir là-dessus. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit. Je rappelle qu'apparu au printemps Souvenir d'un apatride, cette conversation avec Marion Van Rentergem, paru aux éditions Mialet Barreau, que j'ai trouvé passionnant et j'ai appris plein de choses de vous. Coquinou.
Allez, bonsoir.
Et oui, c'est ainsi que s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard et François Audouin à la réalisation, Nicolas Mathias à la technique, Thomas Allard au mixage, et merci à l'ensemble du service documentation de Radio France. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.